C'est la détresse d'un homme qui semble avoir totalement échoué dans le projet pour son figuier. La détresse infinie de Dieu devant la dérobade d'Adam et Ève. Sa détresse, son corps, devant le peuple à la nuque raide et donnant de la piquette là où on pouvait attendre le meilleur cru. C'est la détresse du Christ devant une église infidèle. Détresse et déception de l'époux devant les fuites constantes de son épouse. Je crois que c'est la détresse du Christ après 3 années où il a prêché en Israël, premièrement au peuple élu. Cette détresse, ce regard de Dieu sur son peuple, c'est le regard, frères et sœurs, qui peut être le mien. Je peux dire, j'ai trop donné. Je suis trop déçu par mon figuier. Et encore tout à l'heure, hier, à l'expo, j'ai rencontré un monsieur. Il avait beaucoup donné. Il était prédicateur laïque. Et en fait, je sentais aigri, déçu par rapport à l'église, si bien qu'il avait quitté toute église. Je peux être déçu par celui ou celle que j'entoure, que j'accompagne. Qu'est-ce que je peux encore espérer de mon église, de mon pasteur, du conseil presbytéral? Toujours pas de fruits. Quand est-ce qu'il y aura du réveil dans mon église? Quand est-ce qu'il peut y avoir un épanouissement? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution que ce verdict? Coupe-le. Prends ta hache et coupe. C'est une sentence qui peut être un peu terrible, mes frères et sœurs. Il y a pas mal de personnes qui ont côtoyé l'église et qui pensent ça. Autour de nous. Une mort qui semble inévitable. Un constat inévitable. Un constat semblable à celui de la vision du prophète Ézéchiel au chapitre 37, voyant une armée de morts, de squelettes. La réalité d'un monde dans lequel aussi nous vivons, comme un figuier sans figue. Un monde à la dérive, sans point de repère pour se connaître, se reconnaître, se comprendre. Frères et sœurs, moi, je suis étonné de tout ce qui se passe en France en ce moment. Hein. Je me dis, mais on marche sur la tête. Hein. La réalité de l'homme selon la Bible, après avoir abandonné son Dieu, un figuier sans figue, comme une armée desséchée, des morts qui se croient vivants et des vivants qui se croient morts. Et ce texte, je vous le disais tout à l'heure, nous parle en premier du peuple d'Israël qui, pendant les 3 ans du ministère du Christ, a rejeté l'amour de Dieu pour beaucoup. Ce peuple qui n'a toujours pas reconnu Jésus comme le Messie, ou pour un petit nombre, nous en parlions avec David à propos des juifs messianiques. Peuple élu de Dieu, peuple à la nuque raide. Mais ce texte, je crois, il parle de nous aussi, frères et sœurs, de ces chrétiens desséchés que nous pouvons être parfois, de ces figuiers sans figues. On peut se dire, non, pas nous, hein. Nous, on a la foi, une certitude inébranlable. Nous sommes protestants depuis peut-être plusieurs générations, bien plantés au milieu de la vigne. Pourtant, je me demande des fois, et moi le premier, vous savez, dans l'expo, il y a la Bible de mon arrière-grand-père. Si des fois je ne suis pas un figuier sans figue, un peu desséché, qui d'entre nous ne s'est pas levé un matin avec cette question, pourquoi je suis là? Suis-je si différent des autres dans le monde? Pourquoi suis-je ici à écouter la parole d'un livre dont plus d'un tiers de la planète ne s'intéresse même pas? Qui ne s'est pas retrouvé un matin, peut-être ce matin, comme dans le noir? Qui s'est pas retrouvé seul à se dire, c'était bien au début, la vie avec le Christ, mais maintenant, depuis que je fais de la théologie, c'est un peu dur. Hein. Non, je rigole. J'arrive plus, je stagne, je suis au point mort. Qui n'a pas eu un jour vécu cela, ce dessèchement? Qui s'est pas dit comme un figuier, s'est pas senti comme un figuier sans figue devant son Dieu? Qui n'a pas eu un besoin d'un renouvellement, d'un accompagnement? Qui, en voyant son église, son figuier, ne s'est pas dit, ça vaut pas le coup? C'est pas possible que ce soit le corps du Christ. Pauvrette église. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Voici 3 ans, coupe-le. Ces versets peuvent parler, frères et sœurs, à bien des égards, à nous chrétiens, du regard que nous portons parfois sur nous-mêmes, sur notre famille, sur notre église. Et depuis 3 ans, je viens chercher des figues et j'en trouve pas. Alors je vais arrêter cette relation. Je ne vais pas persévérer parce qu'en fait, il n'y a rien à tirer. Coupe-la. Et c'est alors que la discussion, le dialogue entre Dieu et le vigneron intervient. Vous avez bien compris qu'il y a ici une image de la discussion, de l'intercession du Christ auprès du Père. Heureusement, le texte ne s'arrête pas à la sentence, c'est la mise en suspens du jugement. Les ossements revivent, le prophète prophétise à l'esprit, le vigneron intercède auprès du maître. C'est l'image du Christ qui intercède d'un bout à l'autre de l'histoire pour tous les hommes et qui dit sur la croix, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et remarquez qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y aurait pas la tendresse du Christ et puis le jugement du Père. Non, l'un et l'autre acceptent la proposition. Le vigneron demande encore un temps de grâce et le Père accepte. Et le Père qui avait dit « mais coupe-le », dit « mais si tu reviens dans un an et qu'il n'y a toujours pas de fruit, alors je le couperai ». L'unité du Père et du Fils. Le vigneron continue à aimer ce parasite de figuier sans figue, ce figuier malade que je suis. Il va l'aimer avec passion, patience, labeur. Il va l'aimer jusqu'à la passion pour lui. Et tu lui disais, Rodrigo, Dieu, il ne s'arrête pas de travailler. S'il nous invite à nous reposer, lui continue son œuvre. Le sabbat n'est pas pour lui. Il continue son œuvre créatrice, jusqu'à donner sa vie pour le salut du monde. Le vigneron ne fait que demander un délai, un temps de grâce, car il ne peut pas supporter que tant d'amour reste vain, un délai de grâce. Rappelons-nous que ce matin encore, nous sommes en l'an de grâce 2017. La grâce est toujours pour nous et pour ceux qui nous entourent. Le Fils demande un délai pendant lequel il déploiera encore plus d'efforts, des œuvres particulières du Christ qu'auparavant, il n'avait pas encore déployé. L'espérance chrétienne lucide et active s'exprime dans la dernière partie de cette parabole. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Je crois qu'il y a si, le si de l'espérance qui retentit en chacun de nous, si par lequel le Fils retient le jugement du Père. Je pense à Osée qui retient le jugement vis-à-vis de Gomère. C'est les portes de l'espérance, les portes d'un nouvel avenir. Juste un peu de temps. Le temps du jugement suspendu, le temps d'espérer encore qu'un changement soit possible. Le temps de penser que la vie, elle n'est pas figée, qu'elle n'est pas bloquée sur le passé. Le temps offert à l'autre pour qu'il nous surprenne sous un autre regard. Et si ce figuier n'était pas voué à la stérilité? Et si nous pouvions en attendre autre chose qu'un arbre sans fruit? Le vigneron pose un regard décalé, lucide, sur ce figuier. Il refuse de l'enfermer dans sa stérilité. Un regard que le figuier ne mérite pas vraiment. Un regard de grâce. C'est ce qu'a redécouvert Luther. C'est l'image du Christ qui va jusqu'à mourir pour son enfant. Dieu a un figuier, Dieu a un peuple, Dieu a une épouse, Dieu a un enfant. Il est large, il est profond. Il est immense. Il est grand comme ça, l'amour de Dieu pour nous. C'est l'image de l'espérance chrétienne. Parce que je suis ce figuier sans figue, je suis aussi appelé à être ce vigneron imitateur du Christ. Et le prophète le vit pleinement, en prophétisant à l'esprit. Ce sera les messages que je voudrais vous laisser tout particulièrement en conclusion. Prophétise à ses ossements. Annonce que rien n'est impossible à Dieu. Annonce que le souffle de l'esprit fait revivre. Annonce le réveil. Frères et sœurs, je crois garder un regard pessimiste sur nous-mêmes, c'est oublier que rien n'est impossible à Dieu. C'est oublier l'action du Saint-Esprit pour consoler, pour donner la vie dans ce monde desséché. Il n'y a pas de situation trop difficile pour Dieu. Prophétise sur ses ossements, prends ta bêche. Prends ta bêche, prends ton fumier et puis vas-y. Il y a bien un figuier qui a besoin de ta bêche et de ton fumier. Et peut-être si tu ne sais pas vraiment que faire, peut-être tout simplement ta bêche ou ton fumier, c'est tout simplement la prière à l'esprit pour que quelqu'un s'ouvre à la grâce de Dieu. Je vous le disais tout à l'heure, ce texte s'adresse tout d'abord à Israël. Il est là le temps de la grâce, le délai accordé par Dieu lui-même le temps d'intercéder pour ce peuple. Ce peuple que Dieu aime, de prier pour qu'il reconnaisse en Jésus le Messie. Il est temps d'intercéder pour le peuple élu de Dieu, le figuier aimé de Dieu. Et je vous l'annonce déjà, pendant la Semaine Sainte, le mardi soir, nous aurons l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de vivre le repas du Seder. Ce sera à l'église libre, c'est le pasteur Frédéric Baudin qui nous conduira dans ce moment-là, et de vivre le repas de la Pâque à la façon juive, mais plutôt judéo-chrétienne, en fait, à la façon des juifs messianiques, en relisant également des textes du Nouveau Testament et voir la réalité de cet accomplissement en Christ. Le texte va plus loin, il s'adresse aussi à l'Église. Nous sommes en l'an de grâce 2017. Il est là le temps de la grâce et le temps de prendre ta bêche, ton fumier, de te mettre au travail pour cultiver ton figuier, ton Église. L'important, c'est de prendre ta bêche, ton fumier, et de profiter de ce temps de grâce. As-tu un figuier dans ton jardin ? Ce figuier, c'est pas simplement ton Église, c'est celui que tu rencontres, où que tu sois, avec le regard peut-être de sentence que tu portes sur lui. Mais il n'est pas bon à être coupé, simplement. Prends ta bêche, prends ton fumier, laisse tomber ta hache. Il est là le temps de la grâce, le temps pour prendre ta bêche et te mettre au travail et cultiver ton figuier. Est-ce que tu as un figuier dans ton jardin ? Le figuier, c'est moi. C'est toi, mon frère, ma sœur. C'est le temps de la grâce, le temps pour demander au vigneron, au Christ lui-même, de prendre sa bêche, son fumier, et de cultiver autour de toi pour porter du fruit. Il est là le temps de la grâce et le temps pour s'humilier. Saisir sa bêche, c'est saisir tous les moyens de grâce que Dieu met à notre disposition. Et vous le remarquez, pendant ce chemin de Pâques, je vous invite à saisir tout particulièrement la parole de Dieu comme moyen de grâce. Mais on peut saisir également le repas que le Seigneur nous donne. On peut saisir le baptême, on peut saisir la prière, on peut saisir la communion fraternelle. Autant de fumier, de bêche, pour cultiver le figuier que je suis. Il est là le temps de la grâce, le temps pour s'humilier devant Dieu et pour recevoir sa vie. Il est là le temps de la grâce, le temps du réveil pour son Église, le temps de porter du fruit. Il est là, dans un monde aux eaux desséchées, le temps d'appeler l'Esprit de Dieu des quatre horizons, comme le fait Ézéchiel, pour insuffler son souffle de vie. Chaque réveil dans l'Église a toujours commencé par ce temps de la repentance et ce temps de l'intercession, de la prière à l'Esprit pour qu'il souffle des quatre horizons son souffle de vie. Il est là le temps de la grâce. Il est là le temps de prendre ta bêche et ton fumier et de te mettre au travail. Pas de foi sans les œuvres. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, et que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Recevons de lui la grâce et la force de vivre cette grâce au jour le jour. Amen.